Europe 1 Culture Média.
9h-11h. Philippe Vandel.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Ravi de finir la semaine avec vous et avec Culture Média au menu. Tous les médias, toutes les formes de culture. Tiens, aujourd'hui par exemple, on va parler champagne et littérature. Mais dans l'ordre inverse, pas de bouchon. Dans l'ordre, il y aura également en deuxième heure Bruno Donnet pour ses télescopages, le portrait de Lisa Marie Marquez et Marc-Antoine Lebray. Mais d'abord, dans quelques instants, le journal des médias de Louise Bernard et les audiences, évidemment. Notre infomédia autour de H24, série d'Arte consacrée aux violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques, ces violences ou verbales. 24 monologues de 4 minutes avec 24 comédiennes différentes et 24 autrices différentes. Série réalisée par Nathalie Masduro et Valérie Urrea. Elles seront avec nous. Puis nos invités, Linda Lorrain, elle présente une quotidienne sur Arte également, hasard de la programmation. C'est l'invitation au voyage, ça fait longtemps qu'on voulait en parler. C'est du lundi au vendredi à 10h40 et ça marche assez bien pour que l'émission soit prolongée d'un supplément de 30 minutes, supplément quotidien, à partir du 1er novembre. Enfin, l'humoriste Arnaud de Samer pour son spectacle « Deux mariages et un enterrement ». Alors je vous donne le pitch. Arnaud de Samer plus une épouse égale un mariage, moins une épouse égale un divorce, plus une autre épouse égale deux mariages, plus un enfant, plus le départ de la nouvelle épouse égale deux divorces, plus une galère alternée, plus la mort du père, moins la motivation égale 4 ans de dépression, plus la renaissance, plus un œuf au plat égale le spectacle de la maturation. Je ferme les guillemets, rien que ça. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti. Bonjour Lise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour tout le monde.
Au sommaire de votre journal des médias.
Que du nouveau, les nouvelles règles du CSA pour décompter le temps de parole, le nouveau maître de cérémonie des Césars, le nouveau représentant de la France à l'Eurovision Junior, les nouveaux candidats à la reprise du journal La Provence, un nouveau documentaire lumineux et instructif sur Public Sénat et une nouvelle émission sur Europe 1.
Waouh, mais d'abord les audiences, qu'ont regardé les Français hier soir?
Ils ont regardé la nouvelle saison de Munch. C'était la saison 4 sur TF1. 5 millions de téléspectateurs, un bon retour pour cette série. 23,6% de part d'audience. Le deuxième épisode tombe à 3 870 000 téléspectateurs, mais la part d'audience reste stable. Deuxième, M6 avec le meilleur pâtissier au plus bas depuis le début de la saison 10 en nombre de téléspectateurs. 2 millions de téléspectateurs seulement, 11,6% de part d'audience. Et puis troisième, France 2 avec Envoyé spécial qui fait un record de saison, 1 930 000 téléspectateurs, 9,7% de part d'audience.
Culture Média. Le CSA vient de présenter les règles pour le décompte du temps de parole dans les médias à partir de janvier et pendant la campagne présidentielle.
Des règles pour garantir le pluralisme des opinions dans les médias audiovisuels. Des règles qui vont se dérouler en trois temps. D'abord, à partir du 1er janvier, ce sera le principe d'équité, c'est-à-dire que le temps de parole dépend du poids politique, c'est-à-dire des résultats aux précédentes élections, des sondages d'opinion, du nombre d'élus dans le parti, etc. Seront décomptés le temps de parole des candidats et des proches, mais aussi le temps d'antenne, c'est-à-dire les séquences qui leur sont consacrés, les commentaires de sondage par exemple, à condition que ces séquences ne soient pas explicitement défavorables aux candidats. Deuxième étape, au mois de mars, l'équité est là renforcée, c'est-à-dire que ce temps de parole et d'antenne doit être décompté dans les mêmes conditions de programmation. Ça veut dire qu'il y aura 4 tranches horaires et il faudra que ce temps d'équité soit respecté à chaque fois dans ces tranches. 6h, 9h, 8h, 9h, 18h, 18h, minuit, minuit, 6h. C'est-à-dire que les médias qui invitent un candidat dans une matinale, par exemple à la radio, ne pourront pas compenser en invitant un autre la nuit. Enfin, dernière étape, l'égalité. Là, le mot se comprend par lui-même, de fin mars jusqu'à l'avant-veille du premier tour, puis entre les deux tours.
Le même temps à la seconde presse, j'ai bien compris. On connaît donc le nouveau maître de cérémonie des Césars.
Nouveau, pas tant que ça. Antoine Decaune reprend les rênes de la soirée pour la 10e fois et la dernière, dit-il, en tous les cas debout. Il est celui qui a le plus animé cette cérémonie. La 47e édition aura lieu le 25 février prochain en direct de l'Olympia. À lui de tenter de relever les audiences au plus bas l'an dernier, après une édition très politique, décriée aussi, handicapée, on peut le dire, quand même par le peu de films sortis à ce moment-là à cause du Covid.
France 2 vient d'annoncer le candidat à l'Eurovision Junior pour la France.
Qui, pour succéder à Valentina, grande gagnante de la dernière édition, ce sera cette année un jeune garçon, Enzo, âgé de 13 ans, avec son titre Tic Tac. En entêtant, hein, ça rentre tout de suite dans la tête.
Entêtant, je sens qu'on va l'entendre.
C'est un titre écrit et composé par Alban Lico, comme les chansons de Carla, Bim Bam Toi et Valentina, hein, c'était les deux précédentes représentantes de la France. Enzo, qui est un grand fan de l'Eurovision, précise France 2, il le regarde depuis tout petit ce concours. Il chante aussi depuis toujours et ces dernières années, il avait pris l'habitude de poster des reprises des chansons sur ses réseaux sociaux. Certaines vidéos atteignent d'ailleurs les 200 000 vues. Et celle-ci, Tic Tac, il aura le plaisir de la chanter sur scène en France, puisque le concours a lieu à Paris cette année, comme on a gagné l'édition, la précédente édition. Et puis, ce sera devant des millions de téléspectateurs le 19 décembre prochain.
Deux candidats à la reprise du quotidien La Provence.
Oui, le journal marseillais appartenait en grande partie à Bernard Tapie, décédé il y a moins de 3 semaines. Hier, ils sont deux candidats à avoir officialisé vouloir acquérir ces 89% détenus par l'homme d'affaires lors d'un conseil économique et social extraordinaire. Xavier Niel, déjà propriétaire depuis 2019 de 11% du capital du journal. Il avait négocié d'ailleurs avec Bernard Tapie un droit de préemption sur le reste du capital et une clause d'agrément qui lui permettrait de refuser tout nouvel entrant. L'autre repreneur potentiel, c'est CMA-CGM, un groupe de logistique et de transport maritime, plus important employeur de la ville de Marseille, qui met d'ailleurs en avant une volonté d'accroître l'ancrage territorial et régionale de la Provence. La procédure d'appel d'offres se termine le 30 novembre prochain.
La chaîne Public Sénat, on parle de télévision, propose ce soir un documentaire dans le cadre d'Octobre Rose, ce mois de sensibilisation au dépistage du cancer du sein.
Documentaire lumineux et instructif à la fois, raconté à la première personne par Lune Milazi. Elle a 27 ans seulement quand elle découvre qu'elle a un cancer du sein. Elle vient de finir ses études de journalisme. Alors elle prend une caméra et elle se filme. Elle filme son parcours, ses soins, ses rencontres avec les médecins. Elle m'a expliqué pourquoi elle avait fait cette démarche.
J'ai rapidement eu envie de comprendre ce qui m'arrivait. J'avais envie de trouver de l'espoir aussi. En fait, d'avoir un but, de continuer à penser à l'avenir, d'avoir cette caméra avec moi et de filmer, d'enregistrer ce que je vivais au fur et à mesure, m'a permis de mettre la distance avec la maladie. C'était moi qui vivais ces choses-là, mais à travers peut-être cet écran aussi. Et je sais que parfois, je regardais les images que j'avais tournées plus tard et il y avait des moments où je me disais « Ah oui, en fait, je suis vraiment passée par là ». Comme quoi, c'était peut-être aussi une protection, un moyen de me protéger et de mettre de la distance avec le cancer.
Et puis rapidement, elle va s'allier à un réalisateur, Nicolas Bourgoin, pour en faire un documentaire. Ensemble, ils vont aussi aller à la rencontre d'autres jeunes femmes atteintes du cancer du sein. Des jeunes femmes comme elle, autour de la trentaine. Car oui, ça existe aussi chez les jeunes femmes et c'est bien ce que ce film veut raconter. 3% des femmes de moins de 35 ans sont touchées par un cancer du sein.
Ça reste une minorité, mais il y en a quand même beaucoup. Et puis, certainement de plus en plus, puisque les médecins avec qui j'ai échangé avaient plutôt tendance à me dire qu'ils en voyaient de plus en plus. C'est important d'en parler et de savoir que ça touche aussi les jeunes. Lorsque j'ai appris que j'avais un cancer du sein, j'étais très surprise, puisqu'on n'en entend pas parler. Malheureusement, il existe encore trop souvent des retards de diagnostic concernant les jeunes femmes, puisqu'elles sont parfois malheureusement pas prise au sérieux. Ça n'a pas été mon cas, mais j'ai rencontré beaucoup de jeunes femmes à qui c'est arrivé. Et on sait à quel point le cancer, c'est une course contre la montre et que plus tôt il est pris en charge et plus on a de chances de guérison.
Documentaire Lune Mila s'en va en guerre de Lune Milazi et Nicolas Bourgoin diffusé demain soir à 21h sur Public Sénat.
Et puis c'était le thème du jour, du nouveau également sur Europe 1.
C'est le lancement de l'émission C'est arrivé près de chez vous, dont vous entendez la musique, animée par Bérénice Bourgueil, dès demain, puis chaque samedi en direct de 16h à 18h. Un magazine de talk qui revient sur l'actualité avec une promesse de la bienveillance, de la bonne humeur, du sourire, de la découverte et de la proximité, des infos de votre quotidien. Et puis vous pouvez, chers auditeurs, intervenir ou réagir tout au long de l'émission.
Merci beaucoup Louise Bernard. Toutes ces infos à retrouver dans la newsletter Média, inscription gratuite sur europe1.fr. À lundi pour un nouveau journal des médias et les audiences du week-end.
À lundi, bon week-end.
Dans un instant, sur Europe 1, notre info média du jour, une série qui va marquer les esprits, la série H24, qui commence demain sur Arte. H24, ce sont 24 histoires vraies sur les violences faites aux femmes, adaptées par 24 autrices, parmi lesquelles on trouve l'ancienne ministre Christiane Taubira, et interprétée cette série par 24 comédiennes. On a beaucoup aimé, on en parle avec les créatrices de la série. À tout de suite.
9h-11h,
Europe 1 Culture Média,
Philippe Vandel.
On entend parler de leur vie brisée aux informations entre deux nouvelles sur le CAC 40 et la météo. Elles sont femmes battues, victimes d'agressions sexuelles, victimes de harcèlement moral, de racisme ou de sexisme. Parfois, l'un de ces faits divers choque davantage que les autres. Il fait la une, on se dit plus jamais ça et ça recommence. Parfois, ce sont simplement des mots, une expression déplacée. Une série démarre ce week-end sur Arte pour donner la voix et uniquement la leur à ces femmes victimes de la violence des hommes. H24, c'est 24 heures dans la vie d'une femme, pour paraphraser Stéphane Zweig. 24 histoires repérées dans l'actualité, écrites par 24 autrices et interprétées par 24 comédiennes. Bonjour Nathalie Masduro.
Bonjour.
Bonjour Valérie Urrea.
Bonjour Philippe.
Vous êtes toutes les deux réalisatrices, vous avez toutes les deux dirigé l'écriture de cette série pour Arte. Vous êtes à la base du projet, vous avez réalisé ensemble 17 histoires sur les 24, 4 histoires courtes de 4 minutes qui relatent des violences faites aux femmes. Nathalie Masduro, la genèse de ce projet, c'est laquelle ?
C'est la colère. Je pense que vraiment, pour répondre à votre introduction, c'est entendre régulièrement ces petites histoires qu'on appelle des faits divers et qu'elles viennent comme ça dans notre quotidien, tous les jours ou presque, et sans qu'on puisse réagir. Nous, ce n'était pas possible. Avec Valérie, à un moment, on s'est dit stop. On ne peut pas continuer à être face à ça et ne pas réagir. Donc, nous, on est documentaristes, on a des armes. On s'est dit, il faut faire quelque chose. Et l'idée de la série est née comme ça, très, très vite.
Valérie Urrea, comment vous avez choisi le format ? Pourquoi 24 heures ? Pourquoi 4 minutes ? Pourquoi on va parler ensuite de cette manière formelle de filmer les choses ?
Je pense qu'il y avait plusieurs choses dans le format très court. D'une part, c'est à peu près le temps de lecture que vous avez d'un fait divers, d'un article de journal. Voilà, c'était pour répondre à cet espace, en fait, assez bref. Et ensuite, on voulait surtout intéresser la jeunesse dans un format court et que ces formats courts soient comme un coup de poing, en fait.
Et que ce soit viral. Alors, c'est vraiment un coup de poing parce que quand on regarde toute la série, 4 fois 24 minutes, ça fait 96 minutes. C'est très, très, très difficile, c'est très âpre. Et chaque film est comme un coup de poing avec aussi une immense humanité. C'est pas la moindre des qualités de ce film. Vous avez commencé par le réel. Nous aussi, on va commencer par le réel. En 2018, une jeune femme, elle s'appelle Marie Laguerre, elle est victime de harcèlement de rue. Elle répond à son agresseur et elle va se faire gifler. L'affaire, à l'époque, fait la une des journaux, comme par exemple sur France 3.
La scène est filmée par la caméra d'un café. Marie, 22 ans, en rouge, marche dans la rue. Un homme l'interpelle de manière obscène. La jeune femme répond et se fait frapper.
Je rentrais chez moi du travail, je marchais dans la rue. Un homme que j'ai croisé, il s'est permis de faire des bruits dégradants, des sifflements, des coups de langue. Moi, ça m'a énervée. Et dans ma tête, j'ai toute la haine de toutes les fois où on m'a mal parlé dans la rue. J'ai lâché un ta gueule. À partir du moment où il fait demi-tour, je sais qu'il va me frapper. C'était assez violent.
La jeune femme rentre chez elle en état de choc, puis retourne au café solliciter des témoignages en vue de porter plainte. Le patron du lieu lui remet alors la vidéo de surveillance de son établissement. Des images accablantes.
Accablantes, mais ça continue. Marie Laguerre a inspiré un court-métrage. Lequel ?
Alors, cela s'appelle Nuit Rouge. C'est un court-métrage qui est interprété par Camille Cotin et qui est réalisé par Émilie Brisavoine. En fait, lorsque nous, on a fait la recherche de tous les faits divers, évidemment, pour nous, c'était très important de parler de celui-là. Donc, on a contacté Marie Laguerre pour voir si elle était d'accord aussi, pour que l'on puisse essayer de relater, mais prendre de la distance. C'est-à-dire, c'est vraiment la question qu'on s'est posée. C'est comment prendre de la distance et faire en sorte que, évidemment, lorsqu'il y en a, ça arrive beaucoup de fois à de nombreuses
Pardonnez-moi,
femmes.
Pardonnez-moi, ici, on est une émission de journalisme et moi, je suis journaliste. Pourquoi prendre de la distance ? Pourquoi ne pas raconter l'histoire au plus près ? Qu'appelez-vous de la distance ?
De la distance par rapport au réel pour que arriver dans cet objet plus universel, en fait. On s'est aperçu très, très vite que ce fait divers était répété un petit peu... était répété de nombreuses fois.
Ouais, malheureusement, comme s'il y avait un schéma Nathalie Masduro.
Oui, c'est pas l'histoire simplement d'une femme, c'est quand même une histoire qui arrive à beaucoup, beaucoup, beaucoup de femmes.
Bien sûr, malheureusement universelle. Juste un mot, la question que tout le monde se pose, qu'est-il arrivé à ce type qui lui avait tapé dessus ?
Il a été condamné.
Autre histoire qui paraît absolument hallucinante, celle d'une femme qui reçoit un avis d'expulsion pour tapage nocturne, ça arrive. Sauf que les bruits qui dérangent ses voisins, ce sont les cris de cette femme qui est elle-même victime des coups de son mari. On va écouter un extrait de l'épisode que vous avez réalisé. Le texte est signé de la romancière Lydie Salvert et il est interprété par la comédienne Marilyn Canto.
Mon mari, quand il a bu, monsieur Lucie, fait valser tout ce qui lui tombe sous la main. la vaisselle, les chaises, les lampes. Et moi. Surtout moi. D'insultes et de menaces va continuer l'huissier sur son ton impassible. C'est ça le pire, monsieur l'huissier, je lui ai dit. C'est ça qui fout le plus la honte. Les insultes, les méchancetés, les « je vais t'en mettre une », les « je vais te buter, salope ». Tu vas t'en mordre les doigts de... te comporter comme une petite pute. Et toutes les horreurs qui lui montent à la tête quand il a bu. Les troubles ont excédé les inconvénients normaux du voisinage, comme il a été établi par plusieurs témoignages. Par plusieurs témoignages, je lui dis. Mais pourquoi ils sont pas venus me le dire à moi, les voisins?
Mais oui, pourquoi les voisins ont laissé faire? C'est évidemment la question qu'on se pose. À l'écran, Marilyn Canto raconte son calvaire, dialogue entrecoupé de scènes de voisinage et d'horreur conjugale, plus suggérée que montrée, mais on comprend vraiment la teneur. Et vous avez mis en scène cette histoire avec une manière très très particulière, Nathalie Masduro.
Oui, les textes sont tellement forts. Nous, en tant que directrice de collection avec Valérie, on a demandé à toutes ces autrices de produire en fait un monologue à la première personne avec unité de temps et de lieu. Mais après, ben voilà, on s'est retrouvés avec ces textes. Comment les mettre en scène? Parce qu'ils étaient déjà très explicites, très forts. Donc, avec Valérie, nous, notre approche a été vraiment du côté de la métaphore, souvent, ou un petit peu de la poésie, de décaler un petit peu les choses. Et là, en tout cas, pour le texte de Lydie Salvert, interprétée donc par Marilyn Canto, avec une musique, je me permets de le dire, magnifique de Léonie Pernet. Nous, notre approche avec Valérie, ça a été de se dire décalons un petit peu les choses qui sont tellement violentes dans ce texte. Et on a pensé à cet art japonais de la réparation qui s'appelle le kintsugi, qui est en fait quand un objet est cassé. Là, en l'occurrence, on a pris des porcelaines. On va essayer de le réparer. C'est cette réparation qui est belle.
Ouais, littéralement, elle recolle les morceaux.
Et oui.
Et c'est toute la force de ce film très court, qui est très très fort, en 4 minutes on est complètement saisi, c'est le décalage entre ce qui se passe et ce qu'il y a avant, après, il y a la souffrance, la résilience, tant est qu'il y ait de la résilience. Vous aviez trouvé où cette histoire, dans la presse? Elle est authentique, cette histoire.
Oui, elle est. Oui, tout.
Ça paraît hallucinant,
oui,
quand même.
Ça paraît hallucinant.
Que les voisins aient porté plainte pour la faire expulser.
Exactement.
Sans aller essayer de la sauver et d'écouter son compagnon. Si on peut appeler ça un compagnon.
Ça a été le plus gros travail pour nous, c'est justement de trouver tous ces faits réels. On les appelle réels et non pas faits divers. Hein. Donc ce sont des histoires vraies et c'est vrai que souvent on est tombé sur des histoires complètement hallucinantes, dont celle-ci, où cette femme s'est fait expulser parce que les coups faisaient trop de bruit et gênaient les voisins. Donc on avait aussi envie de raconter ces histoires-là à côté d'histoires beaucoup plus banales, au fond, ouais. qui ponctuent nos vies.
Et vous savez, le sujet que j'aimerais bien voir, moi, un jour, c'est d'aller voir les voisins. Et pourquoi n'ont-ils rien dit et sont allés porter plainte le plus lâchement du monde? Je ne les connais pas. Mais je peux le dire comme ça. On va continuer à parler avec vous, Nathalie Masduro et Valérie Urrea. Il y a des histoires, malheureusement, encore plus tragiques dans H24. Culture Média continue. Sure.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
H24, série qui arrive sur Arte à partir de demain à 20h45, disponible ensuite évidemment sur Arte TV, série consacrée aux violences faites aux femmes, qu'elles soient physiques, qu'elles soient morales, qu'elles soient dans les mots, qu'elles soient dans les gestes. Et pire encore, comment avez-vous listé? Nous sommes avec Nathalie Masduro et Valérie Urrea qui ont incité, créé cette série et vous avez réalisé 17 épisodes des 24. Je résume tout pour les gens qui nous prennent en cours de route et vous avez bien raison de venir nous écouter ici sur Europe. Comment avez-vous listé les faits divers? Comment avez-vous retenu ces 24 faits divers, ceux-ci plutôt que d'autres?
Quand on parle de violences faites aux femmes, on pense souvent à des choses terribles. Et c'est vrai, il y a tellement
on pense au meurtre et à la marche blanche.
Voilà. Mais il y a aussi des choses beaucoup plus insidieuses dans le quotidien qui peuvent aussi être très très violentes. Une réflexion, un petit truc dans la rue, c'est des choses, c'est la petite goutte d'eau qui vient taper toujours au même endroit.
Vous savez ce qui m'a frappé? Le chignon.
Voilà,
racontez,
c'est ça.
Le chignon.
Alors le chignon, c'est l'histoire d'une étudiante qui est une étudiante en droit et qui passe comme un petit concours d'éloquence avec son professeur et tout à coup, elle a le dessus et son professeur lui fait une réflexion sur sa coiffure. Et cette jeune fille, ça la déstabilise complètement. Et voilà, c'est quelque chose, une de sexiste, en fait. Mais avant d'arriver à se dire ça, et cette jeune fille, elle est obligée de faire ce travail sur elle-même.
Mais là, j'en arrive au cœur de votre projet. Comment on choisit les violences faites aux femmes? Parce qu'évidemment, on ne peut pas mettre sur le même plan une remarque sur un chignon et des coups dans la gueule, pardon de dire les choses crûment.
On a imaginé 24 heures de la vie de cette femme, que l'on ne souhaite à personne, évidemment, qui sont ponctuées, en fait, dans une gamme de gris. C'est-à-dire que la vie d'une femme n'est pas faite que de choses, de petites remarques sexistes. Elle peut être aussi ponctuée de violences conjugales, de violences obstétricales, etc. Donc, c'est vrai qu'on l'a fait de façon un peu intuitive. Et ensuite, on a travaillé avec les écrivaines en leur proposant en fait ces faits réels. Et certaines ont plus ou moins, comme Agnès de Sarthe avec le chignon, discuté. Nous avons recherché aussi quelque chose qui pouvait la toucher plus et qui était plus en lien avec son écriture, avec son œuvre. Toutes les écrivaines avec lesquelles on a travaillé, que l'on avait contactées, ce sont des personnes dont on admirait l'œuvre et dont on admirait particulièrement l'engagement aussi.
Dont une ancienne ministre, Christiane Taubira, comment l'avez-vous convaincue ?
Très facilement, en lui écrivant un petit mot. Et elle nous a répondu, je n'ai jamais fait ça, mais je trouve l'idée formidable. On y va.
Les textes de la série ont été édités en livre, c'est pour souligner la dimension littéraire de ce projet. Série tournée en plusieurs langues européennes, pour quelle raison ? Parce qu'Arte est une chaîne franco-allemande ?
Alors, Arte, c'est plus que franco-allemand, c'est une chaîne quand même européenne. Hein. Elle diffuse dans plusieurs pays. Et puis, c'est un travail qu'on a fait main dans la main avec eux. Et c'est vrai que cette idée a germé assez vite. Et tout d'un coup, on s'est aperçu de la richesse, c'est-à-dire qu'on pouvait aller travailler avec Sophie Oksanen, lui proposer un fait divers qui s'était passé en Espagne, qui allait être joué par une comédienne encore d'une autre nationalité. Ça apportait une richesse de style, de ton, mais ça montrait aussi l'universalité.
Diane Kruger parle en allemand, par exemple.
Diane Kruger parle en allemand, ça faisait très longtemps qu'elle n'avait pas joué en allemand.
Double question, est-ce que c'est vous qui a proposé à chaque autrice son fait divers et à chaque comédienne son fait divers ? Comment ça s'est passé, la répartition ?
Oui, on a fait ces unions un petit peu entre histoire et écrivaine déjà, et ensuite proposer ces textes à des actrices.
Je vais les citer. Camille Cotin, Romain de Boringer, Valeria Bruni-Tedeschi, Céleste Brunkel et Diane Kruger que je citais, quelques-unes, recrutées comment, de quelle manière, vous aimiez leur travail, vous aviez remarqué qu'elles étaient déjà sensibles à ces causes?
Elles étaient déjà très engagées, on admirait énormément leur travail, je pense que c'était différentes générations. Diane Kruger, par exemple, avait pousser un coup de gueule, on va dire, sur le système à Hollywood de payer moins cher les actrices ou de choisir des actrices toujours plus jeunes par rapport aux hommes. Enfin, voilà, je pense que tout ceci participait au choix de ce casting.
Au casting, on retrouve également l'actrice Anaïs de Moustier dans le rôle d'une championne de patinage victime d'agression sexuelle de son entraîneur alors qu'elle n'était qu'une enfant. Elle avait 11 ans, on écoute un extrait.
Le troisième jour, tu me demandes mon âge. Tu aimes les chiffres, les grammes qu'il faut perdre, le centième de point que valent une réception de double lutz. Tu aimes les 11 plus que les 15. Les filles de 15 ans, tu les traites de mémères celluliteuses. Je suis la seule 11 du stage. Tu dis que je serai reine, si je me renforce. Tes mains sur la glace me rattrapent, me redressent, me sécurisent. Tes mains m'applaudissent quand je réussis. Le soir, quand on éteint la lumière dans la chambre que je partage avec une 15, elle soupire que j'ai trop de chance d'être la chouchoute. Trop de chance.
Et là, on reconnaît l'histoire de la patineuse Sarah Bitbol qui avait pris la parole l'année dernière. H24, on l'a dit, sont 24 comédiennes, 24 écrivaines, 11 réalisatrices et 59 femmes dans le projet. Toute l'équipe est 100% féminine. Il le fallait. C'était un geste comme ça. Pourquoi ça s'est fait ainsi ?
On a aussi quand même des hommes hein, dans notre équipe, mais si. On a un chef opérateur qui est formidable, qu'on adore et qui on a travaillé sur les 17 films. Mais c'est vrai que l'idée, c'était quand même de donner la parole aux femmes. Donc, c'est évident qu'on allait convoquer du coup que des écrivaines et des actrices pour interpréter ces rôles.
C'était pas forcément un choix militant.
C'était aussi un choix militant. Lorsqu'on voit la parole donnée aux femmes statistiquement dans les séries, dans les films, enfin les choses évoluent heureusement, elles évoluent énormément, mais c'était un choix aussi, peut-être, de faire un long métrage avec 25 rôles principaux féminins.
Merci beaucoup Nathalie Masduro, merci beaucoup Valérie Urrea, réalisatrice et à l'initiative de ce projet. C'est plus qu'un projet, ça démarre demain à 20h45 sur Arte. On verra les 24 les uns à la suite des autres, donc 24 heures dans la vie d'une femme. Et puis on peut voir chaque épisode sur arte.tv. Merci d'avoir été avec nous en direct.
Merci
dans
Philippe.
Culture Média. Dans un instant, on reste sur Arte, c'est le hasard de la programmation. Parfois on n'en parle jamais pendant une semaine et là on en parle beaucoup beaucoup. Invitation au voyage, la présentatrice Linda Lorrain vient poser ses valises. À tout de suite.
9h, 11h. Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Bonjour Linda Lorrain.
Bonjour Philippe, bonjour à tous.
Vous êtes animatrice, vous êtes journaliste ?
Exactement.
Vous présentez une quotidienne sur Arte, pas n'importe laquelle. Invitation au voyage, c'est du lundi au vendredi à 17h40. À partir du 1er novembre, l'émission sera suivie à 18h25 d'un nouveau rendez-vous d'une durée de 28 minutes. Invitation au voyage / nos inspirations, on va en reparler. Mais d'abord, cette invitation au voyage, comme son nom l'indique, c'est une émission de voyage. Il y en a beaucoup à la télévision. Qu'est-ce que la vôtre a de différent ?
Alors nous, on propose 4 voyages par jour. C'est ça qui est quand même différent et qui est impressionnant au fil des années. 4 voyages thématisés, c'est-à-dire que il y a tous les jours une inspiration, un artiste qui a été inspiré par un endroit dans le monde. Ça, c'est assez différent, on le voit pas ailleurs en télé. Il y a un héritage, une aventure humaine qui a transformé une région dans le monde. Une papille, ça on le voit pas mal en télé, la bouffe et le voyage. Mais nous, c'est vraiment des gens qui sont sur place. Ça, on le voit moins aussi en télévision. Et enfin, un incontournable. Ça, c'est un lieu en général assez connu, mais qui cache une petite histoire, un petit pas de côté, une histoire méconnue.
Et puis il y a vous, vous n'êtes pas sur place, mais dans un studio à Paris.
Non, c'est la grosse frustration, ça.
Ça ressemble à un appartement, vous lancez les sujets, fallait en choisir un. Alors tiens, voici le premier sujet de l'émission qui passe aujourd'hui, 22 octobre.
Pour la première étape du jour, je vous invite dans un monde sous-marin de lianes suspendues. L'expression n'est pas de moi, mais du photographe Marc Ribou. Quand il arrive à Angkor, au Cambodge, il est en effet hypnotisé par la forêt qui s'enroule peu à peu autour des temples khmers. Et évidemment, il va immortaliser cette obsession avec son appareil photo. C'est notre inspiration du jour.
20 secondes de lancement, tout rond, c'est très court.
Oui, c'est court.
C'est le cahier des charges, c'est vous qui l'avez voulu comme ça ?
Non, parce qu'on est quand même une équipe assez conséquente. Je sais pas, on doit être au moins une soixantaine hein, dans la prod, derrière cette petite émission qui grossit chaque jour. Non, c'est pas moi, mais en même temps, la frustration naît le désir, non ?
Pas faux. C'est vous qui écrivez le lancement, ouais. C'est une équipe ?
C'est une équipe, hein, vraiment, je suis bordée aussi.
C'est vous ou c'est une équipe ? Ah non, c'est vous qui écrivez et il y a une équipe
voilà,
qui est là.
Exactement.
Alors, c'est quand
même avec l'aide de Thomas Chauvineau aussi.
C'est très pointu, les temples khmers, d'accord, mais la référence à Marc Ribou, il faut connaître Marc Ribou.
Oui, mais c'est ça le principe d'invitation au voyage. Et moi, c'est ce que j'aime bien dans la culture, à la télé en général, à la radio, comme vous le faites aussi. C'est-à-dire que même les sujets pointus, on n'est pas obligé de tout connaître dans la vie. C'est-à-dire que même un sujet pointu, eh ben, on va prendre les gens par la main pour les amener à découvrir ce sujet pointu, qu'ils vont aimer ou pas. C'est pas grave, il n'y a pas de jugement. Voilà, Marc Ribou, en l'occurrence, je suis sûre qu'en fait, chaque personne qui écoute en ce moment connaît cette photo magnifique de Marc Ribou. Alors, à la radio, c'est compliqué, mais allez la googliser après si vous voulez, mais c'est la fille à la fleur. C'est-à-dire qu'en 1967, dans les manifs de Washington contre la guerre du Vietnam, il a photographié cette femme comme ça, qui tendait une fleur aux soldats. Et voilà, il est devenu un symbole. Et en l'occurrence, voilà, Marc Ribou, personne ne le connaît. Enfin, il y a peu de gens qui le connaissent, peut-être.
Moi, j'ai la chance de connaître, parce qu'en plus, cette photo, elle est en couverture d'un disque de Francesca Soleville qu'avaient mes parents. Et Marc Ribou, j'ai la chance de le croiser quand j'étais journaliste à Actuel. Mais justement, je me dis, tiens, c'est très pointu. Et ça fait justement plaisir qu'on parle de gens comme ça, et pas seulement le tout venant. Alors, on était dans l'histoire des temples khmers, c'est pas facile à prononcer, revisité par Marc Ribou, on l'a vu, et aussi... Vous avez trouvé au Cambodge des sujets plus légers. Exemple.
Dans les forêts du Cambodge, on trouve de drôles de plantes à la forme très suggestive. Et évidemment, ça a intéressé Thomas Chauvineau, comme par hasard. C'est le clin d'œil.
C'est l'émission de ce soir. C'est quoi cette plante ?
Alors ça, je vous laisse le découvrir. Thomas Chauvineau, de toute façon.
Moi, je vais le dire. Vous voulez pas le dire ?
Non.
C'est la plante pénis.
Ah non, il faut pas le dire.
Mais si, je vais le dire.
Non.
Je veux dire pourquoi. On va en savoir plus. On apprend dans votre émission que la plante s'appelle Nepenthes. Elle a une forme de phallus de 30 cm de long. En fait, elle est creuse. C'est une plante carnivore. Les insectes viennent dedans, elles se referment et la plante les mange. Plante connue depuis l'Antiquité. précision.
Et si on remonte le cours du temps, Homer l'évoque également. Mais pour lui, la népenthès, c'est une drogue. Celle qu'Hélène verse dans le vin de son mari Ménélas, rentré complètement déprimé de la guerre de Troie, un burn-out après 10 ans de siège. Népenthès serait donc également un antidépresseur. Pour les botanistes, c'est une plante homérique qui n'existe pas, mais on peut tout de même s'interroger sur le lien qui unit cet antidépresseur de l'Antiquité à cette plante à la forme suggestive, puisque toutes les études le montrent, s'il y a bien un antidépresseur efficace, c'est le sexe.
Ouais, puis ça fait un petit édito à la fin.
Voilà, exactement. De toute façon, Thomas Chauvineau, dès qu'il y a du cul, il en parle. Hein, voilà.
C'est vrai ?
Oui.
Alors justement, j'allais vous en parler, puisque vous le dites avec un petit sourire au coin. Vous dites, évidemment, ça intéressait Thomas Chauvineau. Est-ce que vous auriez dit la même chose si ça avait été une fille qui avait fait le sujet ?
Ah bah oui, je pense. Non ?
Je vous le demande, moi, je connais pas...
Justement, non, j'ai l'impression que dans cette émission, justement, on essaye de pousser un peu les barrières, les a priori, voilà, enfin, là, vous receviez les collègues d'Arte.
Exactement, Nathalie Masduro et Valérie Uréac ont réalisé H24, série d'Arte consacrée aux violences faites aux femmes, parmi lesquelles aussi il y a les violences verbales.
Exactement, mais c'est la ligne directrice de la chaîne, de pousser les a priori, d'ouvrir sur le monde, et ça en fait partie. Je veux dire, une fille peut prononcer le mot pénis et en parler comme un garçon, et voilà. Et puis,
Vous ne vouliez pas le prononcer juste avant ?
Non, mais si, mais non, c'était pour laisser la surprise en
pour
fait,
ne
aux
pas
gens.
Coller.
Voilà, exactement.
Et vous-même, on est dans le sujet, j'aurais pas posé la question si on n'est pas parlé de ça juste avant. Est-ce que vous avez déjà été confronté dans le cadre professionnel à ces violences verbales faites aux femmes ?
Oui, enfin, en tout cas, pas violences verbales, mais oui, du sexisme, il y en a, c'est sûr.
C'est pas notre sujet, je le précise. La plante a été baptisée ainsi. Peu importe, je vais parler d'un autre sujet. Je vais revenir à l'invitation du voyage. C'est un sujet qui se passe en Namibie. On parle de street food, on marque une pause et on y revient. Je m'étais un peu embrouillé dans mes fiches. Ça prouve que l'émission est en direct et que c'est moi qui l'écris. À tout de suite.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
En compagnie de Linda Lorrain, elle présente Invitation au voyage. C'est du lundi au vendredi à 17h40 sur Arte. Et puis il y aura une nouvelle déclinaison de l'émission. On va en parler. Juste un mot quand même sur l'émission qui passe ce soir. Là, je ne vais pas tout spoiler. Je ne passerai pas d'extrait, je vous rassure. Il y a un reportage qui a été tourné en Namibie. On parlait de street food. Ça s'appelle le kapana, c'est-à-dire la viande de bœuf grillée vendue dans la rue.
Comment j'avais qu'un petit beignet comme ça.
Voilà, je raconte ce qu'on voit à l'image, des monceaux de viande, pour ne pas dire de barbac, en train de griller sur des barbecues géants avec des types qui les coupent le plus vite possible pour les faire cuire le plus vite possible. Je veux dire pourquoi ce sujet m'a beaucoup intéressé. Parce que c'est exactement l'inverse des valeurs d'Arte, qui sont la lenteur et aussi les ravages causés par la consommation de viande, la déforestation, l'élevage intensif, la souffrance animale. En substance, la viande, c'est pas bien en Europe et c'est bien en Afrique ?
Non, c'est pas ça, mais c'est une photo du monde, c'est un instantané du monde en fait. Et c'est vrai que quand on va en l'occurrence en Namibie cet après-midi, mais il y a des papilles, parce que c'est le nom de la chronique bouffe, au Kirghizistan, c'est hyper trash. Hein. Et même pour un Européen qui essaye de manger moins de viande comme moi, mais qui en mange quand même, je peux vous dire que désosser un cheval, c'est violent. Hein. Mais ça se passe comme ça. Donc pourquoi masquer la réalité finalement ?
On va parler de la fabrication. Il y a combien de sujets par semaine ?
Waouh ! Par semaine,
si on en a 4 par jour et qu'on en fait 5, ça en fait 20 par semaine.
Bah voilà.
Grosse équipe.
Énorme équipe. Hein.
Est-ce que vous avez fait toutes les régions du monde ? Est-ce que vous n'avez pas peur d'avoir tout fait ? Ça fait l'émission, elle existe depuis combien d'années ? C'est la 4e saison ?
C'est la 4e saison. Ouais, c'est ça.
Est-ce qu'il vous reste des endroits à découvrir ou des sujets à traiter ou des incontournables que vous avez contournés ?
C'est drôle. Y a évidemment toutes les régions où on ne peut pas aller en raison des conflits. Parce qu'on ne va pas non plus risquer la vie des réalisateurs.
Vous dire à quoi je pense. J'ai trouvé une interview de vous en préparant cette émission. L'an dernier, vous remarquiez, c'était il y a 12 mois, que vous n'aviez pas encore consacré de sujet ni à Mozart, ni à Toulouse-Lautrec.
C'est vrai.
Est-ce que c'est toujours le cas ?
C'est toujours le cas. Bah alors, Blandine, c'est
non,
la bosse.
Non, mais ça peut être aussi être un choix
non,
esthétique.
Non.
La preuve, ça fait une très bonne question.
Ah, pas
pourquoi ne pas parler de Mozart, qui n'est pas le plus mauvais que la Terre ait porté ?
Non, c'est vrai. Mais c'est ça l'avantage de cette émission, c'est que quand on a fait la première année, on s'est dit, mince, ça se trouve, on ne va plus avoir d'inspiration, justement, nous-mêmes. Et finalement, c'est une corne d'abondance. Chaque jour, on découvre des nouvelles idées, on voit une expo. Et Toulouse-Lautrec, c'était au Grand Palais que je l'avais vu. Et direct, j'avais appelé ma bosse en disant, tiens, mais on n'a pas fait Toulouse-Lautrec à Paris, c'est quand même incroyable. Mozart, c'est vrai, c'est quand même un incontournable et on ne l'a pas fait.
Sinon, l'incontournable, le musical, les audiences, est-ce que vous suivez les chiffres ?
Je les suis de très loin, c'est ça, on est assez préservés. Mais...
Vous êtes à combien alors ?
Alors là, on me les a donnés en l'occurrence. Je crois qu'hier, on était à 4-5. Alors, je ne sais pas du tout ce que ça représente.
5% de part d'audience.
Ouais.
C'est plutôt pas mal.
Il paraît que c'est bien.
Le pic d'audience était 389 000 téléspectateurs. C'était le 20 septembre dernier. Et justement, quand ça marche bien, en général, on prolonge. Et Arte n'échappe pas à cette règle. À partir du 1er novembre, votre émission sera suivie à 18h25, donc, d'un nouveau rendez-vous d'une durée de 28 minutes. Ça s'appelle « Invitation au voyage / nos inspirations ». De quoi s'agira-t-il ?
Alors là, en l'occurrence, ça va être non pas une émission avec quatre petits voyages différents. Là, ça va être un voyage thématisé. En l'occurrence, soit avec un artiste en particulier. Je peux citer Gauguin. Gauguin qu'on va suivre au Danemark, où il s'est ennuyé à mourir et ça se ressent dans les toiles. Et évidemment, on va le suivre aussi en Polynésie. Là, on connaît plus hein, avec les femmes, c'est Gironde, etc.
Voilà.
Très solaire.
C'est Gironde, plus très jeune. Et ensuite, toute la polémique qui a suivi.
Alors, on n'élude pas non plus, hein, parce qu'on est de l'évasion, mais aussi, voilà, on dit en filigrane les petites problématiques des artistes. Donc c'est soit autour d'un artiste, là je vous cite Gauguin, soit autour d'un pays, ça peut être le Japon, avec Miyazaki et Murakami, et ça peut être aussi autour d'un thème, ça peut être les frissons, par exemple, Hitchcock, qu'on redécouvre à San Francisco, puisque c'est là où il a imaginé, avec toutes ces rues comme ça en pente, il a imaginé Vertigo. Et puis, dans la même émission Frisson, on retrouve Stephen King dans le Maine, avec des images assez impressionnantes, où on comprend l'angoisse qui peut naître comme ça dans ces bouquins.
Ça sera des tournages nouveaux, vous allez vous servir de ce qu'on appelle les stock shots, que vous avez déjà tourné, mais en faisant plus long, et ouvrir des portes qui étaient restées fermées à cause de la durée.
Deuxième option, monsieur. Deuxième option, et surtout, c'est aussi...
C'est-à-dire recyclage d'images.
J'aime pas le mot recyclage, même si on est écolo, mais oui, et surtout...
Enfin oui, j'explique, quand on part quelque part sur un tournage, pour un sujet que vous voyez de 10 minutes, en réalité, il y a des heures et des heures de rush.
Exactement. Donc là, on va refaire plaisir aux gens qui nous réclamaient aussi. C'est ça, c'est venu d'une envie des téléspectateurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'écrivent et qui voulaient revoir certains sujets qui ne sont plus malheureusement à dispo sur Arte.tv. Et donc voilà, on va ressortir des sujets qui sont passés il y a 4 ans et qui devraient, j'imagine, faire plaisir aux téléspectateurs.
Beaucoup de gens en rêvent. Comment êtes-vous arrivé sur Arte et vous dites que ce n'était pas gagné?
On en a parlé en antenne, c'est pour ça que
non,
je souris.
Non, parce que j'ai lu des papiers là-dessus, vous
non,
l'avez
mais
raconté.
C'est vrai. Non, mais parce qu'en effet, on m'a appelé pour 28 minutes. 28 minutes, ça se comprend, j'avais plus de 40
28
ans.
28 minutes, c'est la quotidienne présentée par
Elisabeth Quin. On m'a appelé pour faire un remplacement l'été. Là, c'était chroniqueuse, donc on peut prendre des vieilles, c'est pas grave. Mais c'est vrai que...
Vous avez quel âge ?
J'ai 47.
Je vous pose la question, est-ce que vous lancez le sujet ? À 47 ans, on est vieille quand on fait de la télé ?
Bah, malheureusement, oui.
Et c'est pas en train de changer ?
C'est en train de changer, heureusement. Heureusement. Déjà, il y a beaucoup plus de femmes à la télé, et ça, c'est un gros progrès. Et des femmes qui ont dépassé la quarantaine, c'est vachement bien. Il y a Babette Lemoine sur C'est à vous, il y a Elisabeth. Enfin, voilà, je peux vous en citer plein, et c'est génial.
Donc, votre arrivée sur Arte, comment ça se passe ?
Alors, ça se passe de façon
sur
assez...
Sur cette émission, j'entends.
Ah, sur cette émission, ouais. Oui, parce que c'était après 28 minutes. Ah, en fait, quand même, pour resituer sur 28 minutes, il y a eu un truc assez fou, c'est que j'avais fait 2-3 chroniques régulièrement. J'avais fait quand même les maternelles, tout ça. Alors, personne... n'avait remarqué ma petite présence à l'écran et tout d'un coup je fais 28 minutes un été et là il y a toutes les chaînes qui m'appellent. Donc j'ai pas compris ce qui se passait et en l'occurrence...
Parce que c'est une émission emblématique et aussi parce que c'est un horaire
emblématique. Ouais, mais les maternelles aussi.
Et oui, mais c'est pas le même horaire.
Voilà, bah vous êtes spécialiste, mais du coup moi c'est vrai que je suis un peu tombée des nues et tant mieux. Et Arte m'a proposé cette émission et évidemment de la culture, du voyage, mes deux passions, voilà, c'était comme une espèce de cadeau. Voilà.
Vous dites, c'est dans l'Obs, papier du 20 mai 2020, voici pourquoi je lançais le sujet. Vous dites, je suis d'autant plus reconnaissante à Arte qu'ils ont choisi une femme, 43 ans à l'époque, pas connue et qui n'est pas une bimbo. Autrement dit, je cumulais tous les critères pour ne rien faire en télévision. Et en plus, je leur ai annoncé que j'étais enceinte.
C'est vraiment ça.
Et vous avez quand même été choisie.
Ouais.
Vous étiez vraiment enceinte.
Ah, j'étais vraiment enceinte.
Parce que le coup d'avant, vous avez fait un gros pipeau pour décrocher un job sur WeFM.
Ah oui, alors c'est pas pareil, hein. Dites donc.
Racontez le pipeau.
En fait, le pipeau, c'est que je devais faire des chroniques en roller avec une marque qui s'appelait Tatou à l'époque, qui n'existe plus, donc je peux la citer.
Le Tatou, ça n'existe plus de toute
façon. Voilà.
Même le produit n'existe plus.
Ah bon, voilà.
C'est
donc,
même pas
voilà.
La marque qui a disparu, c'est le produit lui-même, ça n'existe plus.
Donc avec Tatou, et j'étais censée faire du roller, mais sauf que je ne sais pas du tout faire du roller. Donc voilà, bah, en fait, j'étais à pied et bon, J'ai vachement pipoté, quoi.
Attention, question piège, j'oubliais. Oh là, à la fin de l'invitation au voyage, il y a une devinette. Oui. Devinette au sujet de Gogol, pas Google, Gogol.
Quelle célèbre avenue de Saint-Pétersbourg est aussi le nom d'une nouvelle de Nicolas Gogol ? L'écrivain a passé beaucoup de temps dans les cafés et les théâtres au bord de la Neva. Pourtant, il était loin de porter Saint-Pétersbourg dans son cœur. Et c'est avec beaucoup d'ironie qu'il décrit son avenue la plus célèbre. Alors, quel est son nom ?
Alors ?
Nevski.
Gagné. La perspective Nevski. Incroyable quand même. Je ne vous ai pas prévenu. C'était la petite
question
piège.
Non, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est, ce qui est marrant maintenant, c'est que quand il m'arrive de faire des triviales poursuites avec les potes, bizarrement, on me choisit toujours dans l'équipe.
Voilà, bizarrement. C'est vous qui l'avez dit, Linda Lorrain. Merci d'avoir été avec nous. Je rappelle,
merci à vous.
Invitation au voyage, c'est du lundi au vendredi. Donc aujourd'hui aussi à 10h40 sur Arte. Et puis à partir du 1er novembre, l'émission sera suivie à 18h25 d'un nouveau rendez-vous de 28 minutes. C'est la marque d'Arte, 28 minutes. Ça s'appellera Invitation au voyage, nos inspirations. Merci d'avoir été ici en direct sur Europe.
Merci.
Culture Média continue après le rappel des titres de 10h où il y aura les télescopages de Bruno Donnet. Hier, il a évidemment regardé Jean Castex, le Premier ministre, et il a une solution à lui proposer pour améliorer sa communication. Notre invité culture, c'est l'humoriste Arnaud de Samer pour son spectacle « Deux mariages et un enterrement ». Il raconte sa vie. Et puis dans les indispensables, Nicolas Caro nous parle d'un roman qui fait beaucoup de bruit en cette rentrée littéraire. Il est même sur la liste du prix de Flore, que je connais bien. Et puis Olivier Pouls va nous parler de champagne. Vite, vite, vite. L'humoriste et imitateur Marc-Antoine Lebray pour clore l'émission. À tout de suite.